Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles ce matin. Nous voulons manger, Seigneur, une nourriture qui descend d'en haut. Nous voulons, ô Dieu, nous tenir devant toi et nous asseoir à ta table pour prendre ce pain, Seigneur, de vie, pour prendre ce repas dont nos cœurs, nos âmes, nos esprits et même nos corps ont besoin. Alors assiste ton serviteur, Seigneur, dans la proclamation de ta parole. Donne-lui la force de servir ton peuple avec, Seigneur, ce qui vient de ta part, ce qui vient d'en haut. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec notre thème, à savoir l'Église de Jésus-Christ. Est-ce Bethel ou alors, hélas, Bethaven? L'Église du Christ, l'Assemblée que nous fréquentons, l'Église à laquelle nous appartenons, je parle de l'Église locale, est-ce que cette Église est un endroit qui est vraiment consacré à Dieu? Est-ce une terre? Est-ce une terre qui est consacrée à Dieu, un endroit qui est réservé à la louange, à l'adoration, un lieu où les gens viennent pour écouter la parole, pour manger la parole de Dieu, un lieu où les malades expérimentent la guérison, où les perdus expérimentent le salut, ou alors l'Église du Seigneur, notre assemblée avec les temps, a-t-elle perdu ses statuts d'être, mes amis, le véritable Bethel de Dieu et est devenu hélas un véritable Bethaven, c'est-à-dire la maison de néant, la maison du mal, la maison de tromperie, un lieu où toutes sortes d'enseignements hérétiques, toutes sortes de pratiques sont donc exercées, et cela pour la plus grande malédiction des fidèles. Voilà donc la question qui nous accompagne depuis plusieurs dimanches. Église de Jésus-Christ, Bethel ou Bethaven. Nous allons aujourd'hui lire Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. À partir du verset 12, nous lisons, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il est guéri. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites, et des enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ces pharisiens, ces scribes, ces chefs religieux lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ?»« Tu as tiré de louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Et gloire au Seigneur. Alléluia. L'Église de Jésus. Est-ce un lieu où Dieu agit? Est-ce un lieu où le Seigneur se manifeste puissamment? Un lieu où la vie de l'Esprit coule en abondance? Où le feu du Saint-Esprit brûle? Ou alors, notre assemblée, tout en portant le nom d'Église de Jésus-Christ, est-elle devenue un véritable Bethaven? Le dimanche dernier, nous avons vu qu'il est tout à fait possible, qu'il est donc de l'ordre du possible qu'une assemblée, une église qui a bien commencé avec Dieu, qui a marché pendant un temps sous la conduite et la puissance du Saint-Esprit, il est tout à fait possible qu'une église qui a commencé de manière éclatante, de manière extraordinaire avec Dieu, oui, il est possible que cette église-là perdent malheureusement et avec le temps sa qualité, son statut d'être la maison de Dieu, d'être le lieu où le Seigneur se manifeste puissamment, et devenir, hélas, une sorte de Bethaven, une maison qui est consacrée au mensonge, une maison qui a glissé pour devenir un lieu où toutes sortes de pratiques de manipulation sont donc exercées. Oui, nous avons vu comment une église, comment une assemblée, jadis un lieu où le Seigneur agissait puissamment, jadis un lieu où le Saint-Esprit travaillait, où la puissance de la Pentecôte coulait à flot, comment une église comme celle-là, nous l'avons vu, peut glisser et quitter la voie de la vérité, et c'est de faire de l'autorité de la parole de Dieu comme étant la seule règle en matière de foi, de morale et d'éthique, pour devenir un véritable foyer de corruption morale et spirituelle, et pour devenir une sorte de cloaque spirituel, devenir un repère pour les esprits impurs et séducteurs, devenir une caverne de voleurs, une caverne remplie de brigands. Une église passée de ce statut de Bethel à une sorte, mes amis, de casino où on ne parle que d'argent, où on promet monts et merveilles à telle ou telle autre personne qui donnerait plus d'argent. Et nous avons vu que cela arrive de manière insidieuse, de manière sournoise et subtile. C'est donc un lent processus qui se produit de manière quasiment imperceptible. Voilà donc pourquoi nous avons vu la fois dernière qu'il est de la responsabilité de tous les responsables d'église, qu'il est de la responsabilité des pasteurs et de quiconque exerce un ministère, quel qu'il soit au sein de l'église. Nous avons vu comment et pourquoi il était important que les responsables veillent d'abord sur eux-mêmes, sur leur conduite, sur leur comportement, qu'ils veillent sur la parole qu'ils prêchent, sur l'enseignement qu'ils donnent aux fidèles, mais qu'ils veillent aussi sur l'église elle-même. Voyez-vous, pour que l'église reste toujours un lieu où la parole de l'évangile est proclamée, où le Saint-Esprit en toute liberté agit. En d'autres mots, les responsables, quels qu'ils soient, quiconque a une certaine once de responsabilité dans l'église du Christ, devait donc veiller. Veiller à ce que l'église, à ce que l'assemblée, veiller à ce que la borne reste et demeure un lieu où la parole de Dieu est prêchée, un lieu où la gloire du Christ se manifeste. En d'autres mots, que l'église et l'assemblée restent et demeurent la maison du Dieu vivant, maison qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Oui, il est possible. Mais alors, comment peut-on passer de ce statut de Bethel, de ce statut de l'église qui est la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité, à une église Bethaven, à un lieu où il n'y a plus de vie de l'esprit, à un lieu qui baigne désormais dans la corruption morale et spirituelle, un lieu en pleine déliquescence, en pleine décadence? Eh bien, à cette question, nous avons vu qu'il y a plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette transformation, à cette métamorphose négative de la nature morale et spirituelle de l'Église. Plusieurs éléments, mes amis, peuvent contribuer à ces changements nocifs, à ces changements toxiques, malfaisants et nuisibles pour les fidèles. Oui, plusieurs éléments. Tout commence, comme nous l'avons vu, avec les responsables, avec ceux que Dieu a fait lever et à qui il a donné la charge de s'occuper de son Église, de s'occuper des âmes pour lesquelles il est mort à la croix. Ces hommes ou ces femmes qui ont cette responsabilité à la tête de l'Église, eh bien, vont donc jouer un très grand rôle pour le maintien du statut, soit de l'Église comme étant le véritable Bethel, maison de Dieu, colonne et appui de la vérité, ou alors, ils peuvent contribuer à ce que l'Église soit dénaturée, à ce que l'Église perde, mes amis, sa saveur, sa sève spirituelle, et devienne un lieu où désormais tout est possible. C'est ainsi que nous avons vu à partir d'un homme qui était responsable d'une église, cet homme dont Jean, l'apôtre, parle dans 3 Jean, cet homme qui s'appelait Diotrephe, cet homme responsable d'église exerçait une autorité absolue. Il se comportait comme étant le chef de l'église. Il se comportait comme étant celui à qui appartenait l'assemblée. Il exerçait donc la domination, le contrôle, et pouvait mettre les gens dehors, tout simplement parce que ces gens-là n'étaient pas en phase avec sa manière de diriger, avec son leadership, avec sa manière d'exercer le pouvoir. Oui, les pasteurs, les responsables du type Diotrephe peuvent tout à fait, mes amis, contribuer à l'égarement de l'Église, continuer à amener l'Église sur une pente dangereuse, sur une pente qui la conduirait tout droit vers la perdition, et transformer l'Église en un lieu de malédiction, en un lieu où les gens subissent une influence néfaste et toxique du monde, mais aussi du diable qui reste et demeure notre adversaire acharné. Car pour le ténèbre, pour le monde des ténèbres, l'Église reste la cible privilégiée. Reste, mes amis, la bête noire qu'il faut achever, qu'il faut abattre par tous les moyens. Avec le temps, certains pasteurs finissent par se transformer en mercenaires. Voyez-vous, ils finissent par devenir des espèces de despotes, de dictateurs. Ils finissent par imposer leur vue, leur façon de voir à l'assemblée. Ainsi, l'Église, avec le temps, finit par se défaire de l'autorité de la parole de Dieu pour se retrouver sous l'emprise d'un pasteur véreux, manipulateur, narcissique, despote. Cela est donc possible. Tout commence avec la tête. Et nous reviendrons avec plus de détails. Mais en tout cas, les Diotrephes, ou des pasteurs de la trempe des Diotrephes, on en trouve aujourd'hui, et je vous dirai, il y en a de plus en plus. Tout tourne autour du pasteur. Tout repose sur lui. Il ne faut pas avoir une divergence de vue avec lui. Il vous met tout de suite à la porte. Voyez-vous, il est au milieu de tout. Il devient une sorte de soleil, entre guillemets, pour l'assemblée. Et ceci est un drame, est une véritable stratégie pour l'Église. Nous voulons que l'Église, là où le fidèle du Christ se retrouve, reste et demeure un lieu où Dieu agit en toute liberté. Un lieu où les gens viennent pour adorer en toute liberté. Un lieu où les gens viennent pour rencontrer Dieu, expérimenter son pouvoir transformateur. Expérimenter sa grâce d'une manière ou d'une autre. Un lieu où les gens viendraient avec la culpabilité et repartiraient complètement délivrés de leur culpabilité. Un lieu où les gens viendraient agités par les passions de la chair, mais où ils repartiraient complètement libres après avoir rencontré la liberté, et plutôt le Seigneur, la vérité. Comme lui-même le dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Là où l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, là le gens expérimente la véritable liberté. Là le gens, eh bien, croissent dans la connaissance et dans la grâce de Dieu et deviennent de plus en plus semblables à leur Sauveur. Aujourd'hui, nous allons continuer à examiner la parole de Dieu une fois de plus pour voir comment un lieu sacré, comme la maison de Dieu, peut devenir un lieu où sévissent, hélas, toutes sortes d'opportunistes, toutes sortes d'anarcheurs, toutes sortes, mes amis, d'aventuriers. Voir comment un lieu au départ, eh bien, consacré à Dieu, un lieu au départ, mis à part, pour que les gens, en y venant, puissent rencontrer Dieu, mais voir comment certaines pratiques, mes amis, d'inspiration mondaine, nous le verrons, ou alors d'inspiration satanique, comment toutes ces pratiques peuvent pervertir l'Église, altérer sa nature sainte, sacrée, la dénaturer. Comment certains enseignements qui sont véhiculés ça et là, qui sont donc partagés dans tous ces lieux autrefois consacrés à Dieu, comment tous ces enseignements peuvent contribuer, mes amis, à transformer l'église Bethel en une église Bethaven. Et pour cela, nous allons nous tourner vers l'histoire. Nous allons nous tourner vers Israël, le peuple de l'ancienne alliance. Car les exemples, les expériences d'Israël sont comme un exemple pour l'église de Jésus-Christ. N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, concernant justement les Israélites, que cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, non pour qui la fin des siècles est arrivée. Alléluia. Ces choses sont arrivées à Israël. Elles ont été consignées pour nous servir d'exemple, pour que nous voyions comment interagir avec le Dieu d'Israël, comment faire pour demeurer sous sa faveur, comment faire pour marcher avec lui et aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et donc voir là où Israël a bénéficié de la grâce de Dieu, voir là aussi où Israël a enduré la colère divine. En tous les cas, Salomon, puisqu'il est question de revenir à l'histoire d'Israël, en tous les cas, Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, Ecclésiaste 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce n'est pas étonnant que nous voyons des assemblées aujourd'hui, eh bien, se retrouver à fonctionner comme étant de véritables Bethaven. Revenons à Matthieu 21, versets 12 à 17. Il est donc question de l'entrée triomphante et triomphale, parce qu'il y a une nuance, de Jésus à Jérusalem. Il est donc monté sur un âne, et ceci en accomplissement de la prophétie de Zacharie 9, 9, où il est dit ceci, où le prophète s'adresse à Israël, et en particulier à Jérusalem, et dit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. » Alléluia. Zacharie l'avait annoncé quelques siècles auparavant. Et puis voilà, cet accomplissement prophétique est là. Jésus doit entrer dans Jérusalem. Et il le fait sur le dos d'un âne. Et pendant qu'il est sur cet âne, et qui se dirige tout droit vers Jérusalem pour faire son entrée à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui avaient vu dans cet événement l'accomplissement de cette prophétie, celle de Zacharie. Et qu'ont-ils fait? Ces gens ont pris leurs vêtements. Ils ont mis sur le chemin que devait emprunter le Seigneur pour entrer dans Jérusalem. D'autres, eh bien, sont allés chercher des rameaux, ils ont coupé des rameaux dans les champs, et eux tous, c'est-à-dire ceux qui précédaient le Seigneur, et ceux qui venaient après Jésus, criaient « Hosanna », nous l'avons lu, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux célestes ». C'est un moment de joie profonde, alléluia. C'est un moment extraordinaire. Le peuple réalise qu'enfin, La prophétie concernant le Messie qui devait entrer dans Jérusalem assis sur un âne, la prophétie est en train de s'accomplir sous leurs yeux, alléluia. Et rien ne pouvait les arrêter pour exprimer leur reconnaissance envers Dieu, leur reconnaissance envers celui qui a toujours été fidèle, celui qui s'étient derrière sa parole pour l'accomplir. Et gloire à Dieu. Donc, moment de louange, moment d'exaltation, moment de réjouissance. Ces gens-là n'avaient pas bu, non, pas du tout. Ces gens-là, eh bien, étaient animés d'une joie qui ne pouvait venir que du ciel. Et ils chantaient, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et le Seigneur approche, et le Seigneur avance. Entre-temps, quelque chose s'est passé au temple. Oh, alléluia. Quelque chose s'est passé au temple. Le peuple reconnaît que c'est lui le Messie. Mais les chefs religieux, là au temple, continuaient, mes amis, à faire des sacrifices, d'offrir des victimes animales. Il y a un moment, ils ont dû se demander, dit, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Comment expliquer un peu ce mouvement, ce bruit? Eh oui, c'est le Fils de l'homme qui entre de manière triomphante dans Jérusalem. Et quand il arrive dans le Jérusalem, eh bien, il se dirige tout droit vers le temple. Et gloire au Seigneur. Toute la ville est en émoi. D'ailleurs, le mot traduit par émoi, littéralement, c'est « toute la ville fut secouée ». Et le verbe utilisé ici est un mot utilisé souvent pour désigner les tremblements des terres. C'est qu'il se passe quelque chose sur le plan spirituel, sur le plan physique. Quelque chose se passe. Et enfin, ce que Dieu avait promis. Enfin, ces textes que des générations de Juifs ont lus au temple, dans leur synagogue, enfin ces textes est en train de s'accomplir. Ça provoque la joie. C'est de la réjouissance. C'est la liesse populaire. Et là, Jésus entre dans la ville. Et les gens se posent des questions. En voyant les gens qui accompagnaient le Seigneur, en voyant les gens qui se réjouissaient, et en les entendant proclamer Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, certains se sont posés la question, mais qui est celui-ci? Et les foules répondaient, c'est Jésus, oh alléluia, c'est Yeshua, celui que nous attendions, cette promesse que nous avons toujours lue, elle est en train de s'accomplir devant nos yeux. Il accompagne jusqu'au temple, il descend de son ânon ou de l'âne sur lequel il était monté. Il entre dans le temple. Quelle atmosphère règne-t-elle au temple? Il entre au temple. Que va-t-il voir? Va-t-il assister au même enthousiasme que les gens qui l'ont accompagné depuis le mont des Oliviers, parce qu'il est parti de Béthanie. Il faut savoir que Béthanie se trouve sur le versant oriental du mont des Oliviers, c'est-à-dire à l'est, là où le soleil s'élève. Vous passez par le mont des Oliviers, vous descendez, vous avez la vallée du Cédron, et puis ensuite vous avez le temple. Vous voyez. Et donc, va-t-il trouver le même enthousiasme, la même ambiance de gens qui louent, qui adorent Dieu, les gens qui le proclament? Vont-ils reconnaître enfin celui l'agneau de Dieu? Car, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'arche n'existe plus. Elle était disparue depuis la destruction du temple de Jérusalem par Nebuchadnezzar, le Babylonien. Donc, il y avait un voile. Mais derrière le voile, il n'y avait rien. Voyez, les gens continuaient, les sacrificateurs continuaient à faire des sacrifices, etc. Et lui arrive. Ceux du dehors, le peuple, l'ont reconnu. Et ceux qui étaient à l'intérieur, ceux qui étaient chargés, mes amis, des rituels en rapport avec la loi de Moïse, allaient-ils le reconnaître? Eh bien, c'est tout le contraire. Quand il entre dans le temple, il va assister à un spectacle de profanation du temple. Le spectacle qui s'offre à lui est un spectacle terrible, désolant, triste. Voyez-vous, des va-et-vient. Les gens étaient plus intéressés par leur commerce. Et là, ce spectacle va susciter en lui une colère sainte. Jean précise qu'il va prendre, il va prendre des cordes, il va faire un fouet pour pouvoir mettre dehors tous ces gens. Une colère venant d'un cœur rempli d'amour pour la maison de Dieu. Cette colère exprimait le zèle qu'il avait pour la maison de Dieu. Le zèle de ta maison, avait dit le psalmiste, m'était fort. Il y avait un feu en lui, voyez-vous. C'est donc cet amour pour la maison du Père, cet amour qui l'a poussé à agir de cette manière, et non pas une sorte de rage froide. Non, Jésus n'était pas un fanatique frénétique, pas du tout, pas du tout. Il aimait la maison de son Père, alléluia. Et il tenait que ces lieux-là restent un lieu saint, un lieu où les gens vont, mes amis, pour rencontrer Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Un lieu où les gens vont pour pouvoir obéir à la loi de Moïse. Ceux qui avaient péché et qui avaient besoin d'offrir un animal pour leur expiation, l'expiation de leur péché, qu'ils le fassent dans cet esprit de soumission à la parole de Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Ces lieux au départ destinés au culte envers le Dieu d'Israël, ces lieux qui étaient un lieu de culte, la maison de Dieu, une terre sacrée et consacrée à Dieu, le temple, lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple, le peuple de la première alliance, un lieu de prière, un lieu de salut, un lieu de guérison, un lieu où les gens allaient pour que Dieu puisse rencontrer leurs préoccupations, leurs besoins, leurs attentes, un lieu de rassemblement pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Ce lieu-là, mes amis, avec le temps, a fini par devenir, pour certains, un endroit où ils pouvaient faire leurs affaires, où ils pouvaient se livrer au trafic, un lieu de commerce où chacun essayait, d'une manière ou d'une autre, de gagner sa vie par tous les moyens. C'était donc devenu un lieu de commerce, un lieu de trafic, mais un trafic corrompu. Et beaucoup de gens tiraient profit de cette activité qui était très très lucrative. Ça peut peut-être vous étonner, mais c'était normal qu'on retrouve ce genre de choses dans la maison de Dieu. Mais c'est surtout l'esprit dans lequel les gens le faisaient. Il faut savoir que lors des grandes fêtes d'Israël, comme la Pâque, comme la Pentecôte, le Juif venait du monde entier pour rencontrer Dieu, pour obéir à tel ou tel autre commandement de Moïse. Et ils ne pouvaient pas partir, mes amis, avec des animaux. Voyez-vous? Non, ceux qui venaient de loin, qui venaient de pays étrangers, dont il était important qu'ils puissent acheter ces animaux quelque part. Ou même les oiseaux, pour ceux qui n'avaient pas suffisamment de moyens. Il y avait donc des vendeurs dans le temple qui fournissait les animaux pour le sacrifice. D'ailleurs, dans mon cours de judaïsme, ça date, on avait étudié que à un certain moment, ils avaient tellement codifié, ils avaient tellement introduit des règles au niveau des sacrifices des victimes, des animaux à offrir, dans le temple de Jérusalem, qu'ils avaient fixé la distance qu'un animal devait parcourir pour être digne d'être sacrifié au temple. Vous voyez comment ils étaient, hein? Voilà. Et donc, il y avait des vendeurs. Les gens venaient avec leurs moyens financiers et ils pouvaient acheter un animal, un oiseau, là, pour le sacrifice. Et donc, mais ces gens-là avaient trouvé dans cette occasion une opportunité de s'enrichir. C'est ainsi qu'on pouvait acheter ces animaux à des prix exorbitants. Des oiseaux à offrir en sacrifice et aux animaux. Ça, c'est de un. De deux, il y avait les changeurs de monnaie, des cambistes. Vous voyez, cette pratique n'est pas d'aujourd'hui, hein. Eh bien, ces changeurs de monnaie convertissaient l'argent que les gens amenaient en demi-cycle. C'est-à-dire, il y avait une monnaie qu'on utilisait au temple et qui était acceptée. Donc, tu ne pouvais pas venir avec de l'argent en provenance de Grèce ou de Mésopotamie, avec l'effigie, je ne sais de quel empereur ou de quel roi, en disant, voilà, je viens payer l'impôt. Parce que tous les Juifs devaient acquitter un impôt religieux. Mais ça devait se faire en demi-cycle, en monnaie qui avait cours là, au temple. Alors donc, ces gens convertissaient l'argent, l'impôt que tout Juif devait acquitter, en prélevant au passage une grande commission pour eux-mêmes. Et donc, on allait là-bas, les cambistes étaient là, hein. Tiens, tu viens de Mésopotamie, toi tu viens, oh non, moi je viens de Corinthe, qu'est-ce que vous avez, voilà. Eh bien, voilà, moi j'ai la monnaie du temple, avec votre monnaie, voilà, ça vaut autant, et ils ajoutaient une commission. Alors, ce qui fait que pour eux, ben, aller au temple, ce n'était pas seulement pour rencontrer le Seigneur, mais pour se faire de l'argent. En d'autres mots, ces marchands fournissaient aux fidèles de la monnaie valable dans le sanctuaire, mais en même temps des victimes appropriées pour le sacrifice. Mais malheureusement, avec le temps, car comme vous le savez tous, tout commence bien, n'est-ce pas? Oui, tout commence bien. Mais malheureusement, l'esprit de lucre, l'esprit mercantile, eh bien, avait, hélas, fini par corrompre beaucoup d'entre eux. Et ces gens-là, animés par cet esprit de lucre mercantile, avaient donc fini par transformer la maison de Dieu en caverne de voleurs. On venait par un pas du gain et non pas pour rencontrer le Seigneur. On venait parce qu'on voulait faire de l'argent, voyez. Ils allaient au temple pour faire du commerce. Quand ils arrivaient au temple, ce qui les intéressait, eh ben, c'est de dresser leur table avec la monnaie du temple. Et puis les fidèles qui venaient, eh ben, devaient acheter cette monnaie du temple. Et donc, vous pouvez vous imaginer un peu le mouvement qu'il y avait dans le parvis, dans l'enceinte du temple. Et puis d'autres étaient là avec des pigeons, des tourterelles, tout ce que vous voulez, à la limite quelques brebis ou quelques agneaux. Et ainsi on s'est livré, c'était un véritable marché. On peut tout à fait s'imaginer qu'il y en a un qui proposait, allez, un pigeon à X argent, et puis l'autre venait et dit, non, chez moi c'est X divisé par deux. On monnayait un peu, on marchandait, vous voyez? Et tout cela dans la maison de Dieu, voyez-vous? Certes, au départ, c'était un très bon service. Au lieu que les gens aillent un peu partout pour chercher la monnaie du temple, eh bien, ils pouvaient avoir cette monnaie au temple même. Et pour cela, il fallait qu'il y ait des gens. Oui, certes, les gens, d'autres venaient et avaient besoin des sacrifices, eh bien, au lieu d'aller chercher, eh bien, ces sacrifices ailleurs, il pouvait trouver ça au temple, mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est à pas du gain. cet esprit d'avidité, de cupidité, de vouloir faire de l'argent à tout prix, cet esprit de lucre a fini par influencer ces gens-là et a transformé la maison de lieu, de Dieu en un lieu de commerce, en une sorte de marché Wednesday. C'est ça, hein? Un vrai Wednesday. Et de va-et-vient. Vous voyez? Des pigeons qui roucoulaient. Et peut-être des bêlements de brebis et tout ça. Et dit, attends, moi je suis arrivé avant toi, donne-moi ceci et tout ça. Dans le temple. Et voilà que le Seigneur arrive. Et quand il voit ce spectacle désolant, quand il voit ce spectacle indigne de la maison de Dieu, eh bien, son cœur entre en ébullition comme un volcan. Le feu du Saint-Esprit en lui l'amène, mes amis, à faire le fouet et à chasser tous ces gens-là, à le mettre dehors, à renverser les tables des changeurs, à renverser les sièges de tous ceux qui vendaient des pigeons, et puis à mettre de l'ordre, à purifier le temple. Et c'est là qu'il va leur dire, il est écrit, oh alléluia, ma maison, c'est-à-dire la maison de qui? La maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu où les gens viennent pour le louer, pour le célébrer. Un lieu où les gens viennent avec leurs fardeaux, avec leurs attentes. Ils les déposent aux pieds du Seigneur. Et ils reçoivent aussi l'assurance que Dieu a entendu leurs paroles. Rappelez-vous de Zacharie et Élisabeth. Zacharie était sacrificateur. Ils sont restés pendant de nombreuses années sans enfants. Mais Zacharie a continué à servir. Mais lui et sa femme ont continué à implorer Dieu pour les visiter. Et c'est là au temple, alors qu'il exerçait, c'était son tour, qu'un ange va se révéler à lui, alléluia. Un lieu de révélation. Et l'ange va lui dire, eh bien, Zacharie, Dieu a entendu ta prière. Et il m'envoie pour te rassurer, tu vas avoir un enfant, alléluia. Le temple devait servir à ça. Un lieu qui accueille la présence de Dieu. Un lieu où les gens viennent, eh bien, se mettent à chanter, Hosanna au Dieu d'Israël, Hosanna celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Messie, il est là. Mais malheureusement, voyez-vous, malheureusement, des hommes gagnés, rongés, oblitérés par l'esprit de lucre, ont fini par transformer la maison de Dieu en une caverne de voleurs. Heureusement qu'il y avait au temple des gens qui étaient venus avec des motivations pures, c'est-à-dire en respectant la nature sacrée de ce lieu, qui étaient venus dans le but de recevoir une guérison, de recevoir la solution à leurs problèmes. Et c'est ainsi qu'il nous est dit, et nous l'avons lu, des aveugles et des boiteux se sont approchés de lui dans le temple. Et qu'a-t-il fait? Il les a guéris, alléluia. Il les a guéris. Et ils sont venus chercher Dieu. Ils sont venus pour que Dieu puisse les visiter, puisse les rencontrer. Voyez-vous? Dieu, le Seigneur les a guéris. Voilà la raison d'être de la maison de Dieu. C'est un lieu où les gens viennent avec leurs problèmes. Et ils s'attendent à Dieu. Alléluia. Si Dieu ne répond pas de manière instantanée, ils repartent au moins avec l'assurance que Dieu a entendu leur prière. Qu'un jour, leur Dieu se lèvera de son trône et viendra à leur secours. Alléluia. Les lieux où les gens viennent avec toutes sortes d'interrogations, ils ne savent plus quoi faire, mais où ils repartent avec la paix du Seigneur, où ils repartent avec des esprits, mes amis, bien clair, où ils se disent, mon Rédempteur est vivant. Oui, je suis dans cette situation difficile, mais je sais qu'il a entendu ma voix. Il m'a rassuré par telle ou telle autre prophétie. Il m'a rassuré par la prédication de sa parole. Je repars avec un cœur rafraîchi. Alléluia. Je sais qu'un jour, je sortirai de ce tunnel. Oh, alléluia. Pendant qu'il guérit ces boiteux, pendant qu'il guérit ces aveugles, la Bible nous dit, les enfants se mirent à crier. Les enfants se mirent à louer. Ces enfants se mirent à célébrer le Seigneur. Que disent-ils? Hosanna au fils de David. C'est un des titres du Messie. Là au temple, eh bien, deux voix se lèvent. Et ces voix-là mettent en sourdine le bruit des pièces de monnaie. Alléluia. Deux voix se lèvent pour louer Dieu. Deux voix se lèvent pour célébrer le Dieu d'Israël. Voilà la raison d'être de la maison de Dieu. Un lieu de prière, un lieu où les gens louent, pas un homme. C'est pas un lieu où on vient pour encenser un homme, pour l'admirer, pour lui montrer que, à part lui, il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas un lieu où on exalte le moi, on exalte le moi, pas du tout. Mais un lieu de prière, un lieu, mes amis, où on loue, on adore Dieu. Quelle ambiance. Vous voyez ce changement d'atmosphère. Avant, c'était la chair dans tout ce qu'elle a de pire et d'horrible. C'est le moi, c'est le profit. Je dois avoir de l'argent. Il faut en gagner absolument. Voyez-vous? Et tout d'un coup, quand le Seigneur se met à nettoyer, quand il met son pied dans cette fourmilière, et que c'est la débandade parmi toutes ces termites, eh bien, l'atmosphère change. Quand on revient au Seigneur, là où l'Église était devenue un véritable Beethoven, eh bien, quand on revient au Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, dans sa puissance, l'Église retrouve de nouveau son statut d'être la maison de Dieu. Alléluia. Un lieu de célébration. Un lieu de rencontre avec Dieu. On vient avec des problèmes. On vient avec des larmes. On vient avec des cœurs brisés. On ne sait plus quoi faire. On a eu une semaine terrible. On a connu un mois pénible. Mais on va à l'église. Et là, c'est Dieu qui nous accueille. Là, Dieu nous parle. Là, Dieu nous rassure. Il nous dit, ma fille, prends courage. Je suis là. Mon fils, ne tourne pas de regards inquiets. Invoque-moi et tu verras de quoi je suis capable. Mais comme toujours, à chaque fois que le Seigneur fait quelque chose, l'ennemi s'élève aussi pour le contrarier. L'ennemi s'élève aussi, mes amis, pour essayer d'empêcher l'œuvre de Dieu. La réaction vient des principaux sacrificateurs. Écoutez bien. La réaction vient des scribes, des chefs religieux, des gens qui étaient censés connaître la parole de Dieu. Voyez-vous? Voyant tout ça, l'atmosphère changeait, les changeurs d'argent sont partis, les tables sont renversées, et, eh bien, les sièges de tous ceux qui vendaient les pigeons sont renversés, tous ces gens mis dehors, à la place, eh bien, ceux qui étaient venus avec des besoins voient Dieu rencontrer leurs besoins. À la place, eh bien, les enfants se mettent à louer, se mettent à célébrer le Seigneur, eux, ils réagissent. Regardez, la Bible nous dit, mais, nous sommes au temple, hein, mais, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Comment est-ce possible? Indignés parce que le Seigneur a guéri les malades. Mais quand Salomon avait construit le premier temple, n'avait-il pas dit que quand ton peuple viendrait malade, avec des problèmes, et qu'ils imploreraient ta grâce, que tu puisses leur envoyer la guérison? Il lisait tous ces textes. Voilà que le Seigneur guérit les boiteux. Il ouvre les yeux des aveugles. Voilà que le peuple, les enfants louent Dieu. eux, ils sont indignés. Et la Bible nous dit, ils sont indignés à la vue des merveilles. Vous savez, c'est ici, littéralement, voyant les choses admirables. Le mot admirable, enfin traduit par admirable dans nos versions, est un adjectif unique dans tout le Nouveau Testament. On le trouve qu'en cet endroit, où il est dit, voyant les merveilles que le Seigneur venait de faire, ces gens sont indignés. Vous voyez où la religiosité peut amener quelqu'un. Ce sont eux qui auraient dû être des exemples. Ce sont eux qui auraient pu se tourner vers le Seigneur en disant, « Oui, nous reconnaissons que nous avions ouvert la porte aux ténèbres, à la chair, au péché, à la distraction, à la manipulation. Oui, nous avions ouvert la porte à la cupidité, à l'avidité, à la voracité. Mais maintenant, nous réalisons qu'effectivement, ce lieu, c'est la maison de prière. » C'est la maison où nous devons te louer. Ce sont eux qui auraient dû réagir en premier, de la bonne manière. Mais résultat, ils réagissent autrement. Et qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, ils disent au Seigneur, entends-tu ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu as des oreilles, toi? Il faut savoir que c'est des religions avec des barbes jusqu'au nombril, hein. Certains devaient faire peur, hein. Comme certains fanatiques dans certaines religions, quand vous le regardez, vous voyez la haine. Ils devaient faire peur. Déjà avec leur robe sacerdotale, avec tous ces tralala-là, entends-tu? Je m'imagine un peu, tous se tourner vers le Seigneur, hein, cette corporation des scribes et des sacrificateurs. Qui est celui-ci qui vient nous perturber? Qui est celui-ci? Entends-tu ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disaient? Hosanna au Fils. Même si la Bible ne le dit pas, je suis convaincu que les boiteux guéris, les aveugles qui avaient recouvré la vue, s'étaient joints à cette célébration pour dire « Béni soit le Seigneur ». Hosanna au fils de David, il s'indigne. La louange remplit désormais le temple. Le bruit des pièces d'argent ont disparu. Tout ce qu'on entend, c'est cette louange qui monte du cœur, des cœurs reconnaissants d'avoir reconnu le fils de David, des cœurs reconnaissants d'avoir assisté à une démonstration de sa puissance face à la maladie, face au handicap. Mais ils réagissent ainsi. Et le Seigneur leur dit, oui, j'entends très bien. Je sais ce qu'ils sont en train de dire. Voyez-vous? Et il leur rappelle la parole de Dieu. Voyez? Dans le psaume, oui. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Voyez? Tiré du psaume. Et là, il les laisse. Avec cette parole de méditation, le Seigneur ne discutait pas. Il les laisse cette parole. C'est écrit dans votre Bible, hein? Plutôt dans votre Tanakh, la Bible hébraïque. C'est écrit là-dedans, dans les prophètes, dans les psaumes, dans Moïse. Tout est dedans. Hein? Ce qu'ils font, eh bien, c'est ce que vous avez toujours lu lors de vos cultes, lors de vos manifestations. Et le Seigneur est parti. Mes amis, cette histoire est une belle illustration de ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Voyez-vous, l'église, nos assemblées dans la plupart des cas, sont devenues des lieux, mes amis, remplis d'ossements humains, plutôt d'ossements spirituels, des lieux où il n'y a plus la vie, parce que la parole de Dieu n'est plus prêchée, parce que Christ n'est plus au centre. Parce que l'enseignement de la parole n'est plus accepté comme étant le seul moyen de révélation du Dieu de la Bible. À la place, ce sont des hérésies de perdition. Ce sont des enseignements pernicieux, des fables habilement conçues. Il y en a même qui recourent, mes amis, à des enseignements occultes ésotérique. Tout cela pour essayer un tout petit peu d'impressionner. J'ai même entendu qu'il y en a un qui avait affirmé haut et fort que lui avait le pouvoir de quitter son corps, d'aller faire un voyage je ne sais pas où, de voir ce qui s'est passé ailleurs et puis de revenir dans son corps. Ceci ne peut pas venir de Dieu. Vous devez condamner ce genre d'enseignement, ce genre de pratique. Quand ces enseignements sont donnés, sont acceptés, alors, mes amis, il n'y a plus de Bethel. C'est désormais le Bethaven. Manipulation, faux enseignements, hérésie. Alors, la réponse, eh bien, comme le Seigneur, tout commence avec Jésus. C'est Jésus qui se met à l'œuvre pour purifier, pour nettoyer les temples. Il prend le fouet. Et aujourd'hui, nous avons un fouet. C'est le fouet de la parole de Dieu. Voilà. Nous devons enseigner cette parole. Avec cette parole, nous allons nettoyer l'église de Jésus. Nous allons mettre fin à toutes sortes de pratiques qui n'ont aucune assise biblique. Avec cette parole, nous allons connaître et comprendre la vérité. Et ayant compris la vérité, alors cette vérité nous affranchira de toute forme d'esclavage intellectuel, d'esclavage spirituel. Prenons la chicotte de la parole. Alléluia. Enseignons la parole. Ne recourons pas à certaines pratiques, on en parlera puisqu'on arrive à la fin. Ou dans certaines églises, des pasteurs demandent aux gens de venir sur l'estrade, de se coucher, et ils prennent leur ceinture et commencent à les chicoter. Ça, c'est humiliant. C'est un spectacle abominable. Humiliant. Mes amis, eh bien, ce genre de spectacle n'est pas du tout différent du spectacle auquel le Seigneur avait assisté ce jour-là quand il est entré au temple. Alors, comment mettre fin à ces pratiques sadomasochistes? Eh bien, recourons au fouet de la parole. Enseignez la parole. Partagez la parole. Promeuvez la parole. Et alors la parole nettoyera les cœurs. Alors la parole éloignera le mal. Avec beaucoup d'audace et d'amour, dénonçons le mal, mes amis, et redonnons à l'Église de Jésus-Christ ses lettres de noblesse. Que l'Église retrouve sa place comme étant la maison du Dieu vivant, comme étant le Bethel du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. Nous parlerons de ces deux colonnes prochainement. En tout cas, que Dieu nous garde, qu'à la borne nous prions pour que ce lieu soit un lieu de prière, un lieu d'exaltation, que nous prions pour d'autres églises, afin que chaque assemblée qui se réclame de Jésus soit un lieu où la sainteté de Dieu est omniprésente, un lieu où la vérité est prêchée, un lieu où Dieu se manifeste en toute liberté, où le feu de la Pentecôte brûle, et brûle encore, et encore. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole. Ô Dieu, j'aimerais que ton Église, j'aimerais que chaque assemblée qui se réclame de toi, reste et demeure un véritable Bethel, une maison, Seigneur, qui accueille ta présence à chaque fois que les fidèles se retrouvent, un lieu où ta parole est prêchée, Seigneur, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, un lieu où le Saint-Esprit se sent libre de se mouvoir, un lieu où les gens viennent pour louer, te louer, toi, le seul et unique Dieu. Un lieu où les gens viennent avec leurs problèmes, et où du trône de ta grâce, tu t'élèves et tu rencontres leurs problèmes, leurs attentes. Oui, que nous soyons ce lieu-là. Que toutes les églises, Seigneur, qui ont perdu, qui ont été complètement dénaturées par toutes sortes de pratiques qui n'ont rien à voir avec ta parole, que toutes les assemblées qui continuent à se réclamer de toi, mais qui aujourd'hui sont de véritables Bethaven, parce qu'elles se sont détournées de toi. Elles se sont défaites, Seigneur, de l'autorité de ta parole, pour désormais se retrouver sous l'emprise d'un pasteur despote, d'un pasteur manipulateur, pour se retrouver sous l'emprise des dirigeants véreux, que ces églises-là comprennent. Et nous prions pour que ces églises reviennent à toi, et que, Seigneur, leurs responsables se mettent de nouveau à prêcher ta parole. Alors ta parole nettoiera ces églises. Alors ta parole apportera, Seigneur, la paix, la joie, la vie. Et ainsi, ces églises retrouveront leur splendeur, leur éclat, leur lustre d'autrefois, lorsque ces églises étaient encore attachées, corps, âme, esprit, à toi et à toi seul. Merci pour tout. Bénis, Seigneur, ces offrandes, au nom de Jésus-Christ. Amen.